Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Tu vois, la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix.
Rencontre avec Maudy Piau, présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui dénonce les violences faites aux femmes handicapées.
Bonjour, je suis Maudy Piau, présidente et fondatrice de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui accueille des femmes en situation de handicap, quelle que soit leur symptomatologie. C'est-à-dire que nous avons des personnes malentendantes, sourdes, aveugles, en fauteuil roulant, qui ont fait des AVC, qui ont la polio, des personnes de petite taille. C'est-à-dire que j'ai voulu créer cette association pour sortir du ghetto de la symptomatologie, ne plus faire partie de ces grandes associations qui se réunissent, les personnes aveugles d'un côté, les personnes handicapées motrices de l'autre. Voilà. Et mon métier, je suis psychanalyste. L'association a été créée en 2003.
Alors ça passe par tout un tas d'ateliers, tout un tas de choses mises en place. Est-ce que vous pouvez nous parler de deux, trois actions phares, on va dire, ce qui aujourd'hui singularise l'association?
Alors les activités de départ, ça a été de penser qu'il fallait lutter contre toute forme de discrimination, celle d'être femme et celle d'être handicapée. Et surtout, c'est là où l'association s'est démarquée des autres associations. Nous avons voulu dire haut et fort que les femmes handicapées sont des citoyennes à part entière, que le handicap n'est pas notre identité. Nous avons voulu sortir du misérabilisme, de la pitié, de la compassion, et surtout, nous avons voulu sortir du fait que c'était la majorité des hommes qui étaient présidents des grosses associations, et même des plus petites. Donc moi, j'ai voulu que ce soit une femme qui soit présidente de notre association, et que nous travaillions avec les femmes handicapées, qui sont les grandes oubliées de la société, même aujourd'hui. Et donc, les activités premières ont été d'informer, sensibiliser les médias, les personnes handicapées elles-mêmes, les grosses associations, le milieu médical, le milieu institutionnel, l'éducation nationale, sur la problématique spécifique des femmes handicapées. Nous sommes des citoyennes, certes, mais nous avons une singularité qui impose que notre différence soit prise en compte, mais prise en compte dans la citoyenneté. Donc nous avons proposé des forums, des colloques sur des thèmes très variés, maternité, handicap, emploi, travail et handicap, les aventurières de la vie. J'ai plus tous les titres que nous avons mis en place, mais nous en avons mis un certain nombre de forums et nous avions à l'époque, parce que maintenant ça change, jusqu'à 400 participantes à ces colloques et ces forums. Parce que notre association était une innovation. Il n'y a en France aucune association de femmes handicapées à part la nôtre et aucune association de femmes qui défendait la citoyenneté et qui surtout accueillait toute forme de symptomatologie. Partant de là, nous avons organisé des ateliers en plus des forums et des colloques. Alors un groupe de parole, parce que le handicap, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose qui est frustrant, c'est quelque chose qui remet en question la personne en situation de handicap et surtout qui oblige l'autre à nous regarder autrement. Et ça, c'est pas évident. Parce que le handicap, ça renvoie à la frustration, ça renvoie à la peur, ça renvoie à l'angoisse pour les personnes dites valides. Si bien qu'il faut faire tout un travail d'approche, je dirais comme disait Saint-Exupéry, s'apprivoiser mutuellement. L'une avec sa singularité, l'autre avec son regard de personne dite valide ou de femme dite valide. Donc c'est le grand travail de l'association, ce travail solidaire et ce travail également de s'accompagner mutuellement. C'est pour ça que je n'aime pas le mot « aider », parce que moi je ne veux pas être aidée. Ce que nous voulons, nous femmes handicapées, c'est qu'on nous accompagne dans les actes de la vie quotidienne que nous réalisons autrement. Nous sommes autrement capables de réaliser les actes de la vie quotidienne. Alors, peut-être pas comme les personnes valides s'y attendent, mais autrement, on invente, on crée, on imagine, on s'aide, enfin, on utilise également des moyens techniques, hein, la synthèse vocale pour les personnes aveugles, le fauteuil roulant pour les personnes qui ont des problèmes de motricité, etc. Mais notre grand cheval de bataille, c'est notre autonomie, notre indépendance et notre citoyenneté. Alors aujourd'hui, en plus des ateliers, il y en a 11, on peut aller les regarder sur notre site. Le plus important peut-être, c'est le groupe de parole, c'est l'atelier création-loisirs et sans doute les permanences. Le focus sur lequel on peut s'arrêter quelques minutes, c'est que nous avons lancé en 2015, en mars 2015, une écoute violence femmes handicapées. Parce qu'en 2009-2010, nous avons fait un colloque qui s'appelait « Les violences envers les femmes, le nom des femmes handicapées ». Nous avons fait passer un questionnaire et en dépouillant ce questionnaire, nous avons été stupéfiettes. C'est qu'on savait que 38% de femmes valides subissent des violences. Mais on a découvert que 80% de femmes handicapées subissent des violences, c'est-à-dire 4 femmes handicapées sur 5. Quand j'ai pris connaissance de ce chiffre, je me suis dit « on ne peut pas rester sans rien faire ». Donc mon idée a été de mettre en place un numéro d'écoute qui n'existait pas, hein. Écoute violence femmes handicapées. Alors on s'est battu, je me suis battue vraiment beaucoup pour que les pouvoirs publics nous écoutent, pour que les grosses associations nous écoutent, pour que les médias nous écoutent, mais ça a été extrêmement difficile. Nous n'avons pas obtenu le numéro vert, donc nous avons lancé nous-mêmes notre numéro d'appel, le 01 40 47 06 06, où nous écoutons les femmes handicapées qui ont subi des violences tous les lundis et le jeudi matin. Nous avons formé des écoutantes, c'est-à-dire que nous avons des sessions de 6 jours de formation avec des professionnels, et c'est stupéfiant ce que nous entendons comme violence concernant les femmes handicapées. De ce constat, j'ai voulu faire un film qui s'appelle « Violence du silence » que l'on peut visionner sur notre site, qui est le témoignage de 8 femmes handicapées qui vivent des violences. Chaque témoignage dure 1 minute et demie. Donc on peut regarder les 8 à la suite, ou bien on peut regarder un et pas les autres. Pour essayer de sensibiliser les médias. Parce que la grande difficulté, c'est que les médias n'imaginent pas qu'une femme handicapée puisse subir des violences. Quand on est en situation de handicap, pour la majorité des personnes, nous sommes vulnérables. Donc on ne va pas nous attaquer en plus, on ne va pas venir nous faire du mal de manière plus importante. Eh bien, c'est tout le contraire. Le handicap suscite, chez les pervers narcissiques, chez les hommes violents, une espèce d'agressivité qui fait que les femmes handicapées sont encore plus maltraitées. Elles sont souvent violées, les femmes handicapées. Il y a comme violence l'étranglement, qui est très fréquent. Il y a, moi, ce que j'appelle la torture du lavabo, où on remplit le lavabo d'eau et on plonge la tête de la femme handicapée dedans jusqu'à qu'elle s'étouffe. Et à ce moment-là, l'homme violent peut faire ce qu'il veut. Bien sûr, il y a les coups. Il y a les violences psychologiques, il y a les violences alimentaires et les violences institutionnelles. Nous avons plusieurs femmes qui ont été violées par soit des médecins, soit des brancardiers, soit des infirmiers. Et ça, c'est vrai. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut croire ce que nous vous disions puisque nous l'entendons et que nous le constatons. Alors, pour accompagner ces femmes, en plus de l'écoute violence femmes handicapées, nous avons une avocate bénévole pour conseiller les femmes, une juriste bénévole, une psychologue bénévole. Soit les personnes peuvent téléphoner lorsqu'elles n'habitent pas Paris ou la banlieue parisienne, puisque notre numéro est national, soit elles peuvent venir sur place. Et aux femmes qui viennent sur place, on leur propose un atelier échange et création qui leur permet de parler, de partager, de se reconstruire. Et nous leur proposons également un atelier beauté-bien-être avec une socio-esthéticienne pour leur permettre de se réapproprier leur corps, d'aimer leur corps. Quand on a été battu, quand on a eu des bleus, quand on a subi des étranglements, on finit par détester son corps. Et surtout, avec la psychologue et le groupe de parole, nous essayons d'échanger, de faire saisir à ces femmes qu'elles ne sont pas coupables, que le handicap n'est pas une faute, qu'elles ne doivent pas subir les violences, que les violences sont interdites. Parce que leur discours est très souvent... Mais je comprends qu'il me tape, je l'énerve avec mon handicap. Je suis aveugle, j'ai renversé mon verre de vin sur une nappe propre, il me donne une claque, je la mérite. Ou bien il va faire les courses, il fait la cuisine, et moi je ne fais pas grand-chose, donc il se défoule sur moi, c'est normal, qu'il me donne des coups de pied, des coups de poing. Donc il y a une espèce de, j'allais dire, d'acceptation, entre guillemets, des violences de l'agresseur parce que la femme handicapée se sent coupable d'être différente, d'être handicapée. Et nous luttons beaucoup contre ça et c'est extrêmement difficile. Parce que comme vous le savez peut-être, l'agresseur peut être charmant deux jours après avoir battu et même torturé sa conjointe ou sa femme et lui apporter un bouquet de fleurs. Donc la femme handicapée se dit ben, « je peux bien supporter les coups, parce que qui va me faire la cuisine? Qui va me faire les courses? Je peux bien supporter d'être violée, c'est pas dramatique. Ben, » jusqu'au jour où elles n'en peuvent plus et elles nous téléphonent.
Ça a été mis en place il y a combien de temps cette...
En mars 2015, ça fait 2 ans.
Et vous êtes actuellement le seul numéro où les femmes handicapées peuvent témoigner?
Oui, alors nous sommes le seul numéro, mais depuis que ce numéro a été créé, nous avons travaillé avec les autres numéros d'écoute, le 3919, Alma France, etc., qui au départ ne savaient même pas que les femmes handicapées existaient. Quand je suis allée voir le 3919, elles m'ont dit « nous n'avons jamais eu d'appel de femmes handicapées ». Maintenant, ça change parce qu'elles posent plus ou moins la question et elles nous les envoient. On travaille beaucoup en réseau, ce qui est formidable. On travaille ensemble avec les associations féministes. Le plus difficile, ça me fait toujours sourire, on n'arrive pas à travailler avec les associations de personnes handicapées. J'ai l'impression que les grosses associations se sentent, entre guillemets, coupables de ne pas y avoir pensé déjà. Et puis surtout, comme les grosses associations sont majoritairement dirigées par des hommes et qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans ces grosses associations, il y a quelque chose là qui ne passe pas, qui n'est pas clair. Et pourtant, j'ai des amis dans ces associations, je leur en ai parlé. On n'arrive absolument pas à travailler avec elles. On n'arrive pas à ce que notre numéro d'écoute soit sur leur site. Et ça, pour moi, je vais m'y attaquer encore cette année. Mais ça me pose vraiment question. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'elles se sentent mal à l'aise à l'idée que des femmes handicapées sont maltraitées par des hommes handicapés ou pas. Parce que les hommes handicapés sont violents également. Il n'y a pas que les hommes dits valides. Alors, nous essayons également de protéger les enfants. Parce que les enfants, alors soit les enfants sont violents avec la femme handicapée, leur mère handicapée, soit les enfants sont violentés par l'agresseur. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire.
Et quelles sont vos prochaines actions? Du coup, bon là, on est en avril 2017. Quelle est la prochaine date forte de votre association?
Alors, la prochaine date forte, ça sera le 12 octobre, où nous faisons un colloque justement sur la santé des femmes handicapées. Parce que là aussi, la santé des femmes handicapées pose question. C'est-à-dire que nous, on a fait nos enquêtes internes. Donc, il faut mettre des bémols aux statistiques que je vous donne. Mais on s'est aperçu dans l'association, et ça a été corroboré d'ailleurs par une sage-femme que je connais qui avait fait également son enquête, une femme handicapée voit un gynécologue tous les 20 ans. Donc, elle ne fait pas de dépistage du cancer de l'utérus. Elle ne fait pas de dépistage de cancer du sein, ni du côlon. On s'est aperçu que les femmes handicapées n'allaient pas chez le dentiste. Parce que trop souvent, les cabinets dentaires n'étaient pas accessibles pour certains handicaps. Bon, on s'est aperçu également que les femmes handicapées se nourrissaient mal. Soit elles sont boulimiques, soit elles sont presque anorexiques. Parce que le handicap, c'est quelque chose de difficile à vivre au quotidien. On est tous les jours dans la frustration, tous les jours dans le manque. Donc, il faut avoir une vue optimiste de la vie pour transformer ce manque et cette frustration en quelque chose de positif, c'est-à-dire que je pense que chaque rencontre que je puis faire dans la journée, pour moi, m'apporte. Et d'ailleurs, j'oublie toujours que je suis aveugle, jamais je n'y pense. Et d'ailleurs, là, beaucoup de mes interlocutrices et teurs oublient aussi que je suis aveugle. Alors, parfois, il m'arrive des drôles d'histoires, mais ça, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que pour moi, mon handicap n'est pas primordial. Il fait partie de ma vie. Ma priorité, c'est ma citoyenneté, mon autonomie et la solidarité avec les autres personnes. Donc, ce colloque qui aura lieu le 12 octobre à Paris va tourner autour de la santé. Ça va s'appeler Femmes, Santé, Handicap. On n'a pas encore vraiment le titre. On voudrait, si vous voulez, faire intervenir des philosophes, faire intervenir des sociologues, faire intervenir des médecins. Et surtout, la journée sera émaillée de témoignages de femmes handicapées qui parlent de ce qu'elles ont vécu par rapport à la santé. Et je vous promets que c'est vraiment terrible. On veut sensibiliser les médias et surtout le monde médical à cette problématique des femmes handicapées. Parce que la question importante, c'est que lorsque vous avez une femme handicapée en face de vous, le praticien ne voit que le handicap. Moi, par exemple, je suis aveugle. Eh bien, On va parler du fait que je suis aveugle, mais on ne va pas s'intéresser si j'ai mal au ventre ou si j'ai mal aux dents. C'est-à-dire qu'on nous réduit à notre handicap. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Nous ne sommes pas l'aveugle. Je ne suis pas l'aveugle. D'abord, je suis une personne. Et deux, j'ai un corps, je peux avoir du plaisir, je peux avoir du déplaisir, je peux avoir mal au dos, aux pieds, aux doigts, mais c'est tout. Alors voilà la question qu'on va soulever, c'est considérons la femme handicapée et par extension les personnes handicapées comme des sujets à part entière, avec un esprit, avec un corps, avec une tête pensante, avec des désirs, avec des besoins, et surtout sachant parler. Parce que ce qui est très étonnant, c'est que souvent, moi qui ai un chien guide, on parle à mon chien. Par exemple, dans l'ascenseur, on va me dire « Alors toi, le chien, quel étage elle va ta maîtresse ?» Alors moi, je réponds « Vous n'aurez pas de réponse, hein, vous n'aurez pas de réponse parce qu'il ne sait pas parler. Il sait faire plein de choses, mais pas ça. Hein. » Ou bien, si je suis avec mon mari, on s'adresse à mon mari. Et moi, je me pose à ça, d'abord, je me déplace toute seule déjà. Je veux qu'on apprenne aux médias à nous respecter en tant que sujet et sujet qui pense. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ça va être ça, le premier grand événement. Et le deuxième que je suis en train de travailler, c'est de faire 3 autres films pour compléter Violence du silence. Parce que je n'avais plus assez de sous. On manque beaucoup d'argent, on manque de bénévoles dans l'association. Enfin, on est une petite association. Hein. Donc, s'il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, vous pouvez adhérer à l'association. Même une adhésion solidaire, ça nous aide beaucoup, même si vous n'avez pas de temps pour venir travailler avec nous. Et puis, on a besoin de subventions pour faire tout ce que nous avons à faire. Hein. Donc là, je voudrais faire 3 films supplémentaires. Un sur la violence envers les enfants. Un sur les violences au travail, femmes handicapées, violences au travail. Et un, violence institutionnelle. Parce que ça manque vraiment. Et je voudrais aussi les réaliser pour que nous ayons couvert à peu près, hein, tous les secteurs de la vie des personnes handicapées. Et donc, ça, c'est un travail. Et puis, alors, il y a le travail au quotidien, c'est-à-dire, bon, là, nous avons eu la chance d'avoir quelques interviews comme avec vous. Pour nous, c'est très important. J'aimerais passer sur les antennes. Quand on a lancé le numéro d'écoute, je suis passée sur les grandes radios et les grandes télés, mais là, maintenant, c'est fini. Donc, on a du mal à faire connaître notre numéro d'écoute. Hein. Et pourtant, il y a un besoin et des demandes, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Puis ensuite, on accompagne ces femmes le mieux que l'on peut. Et on n'a pas toujours des nouvelles, hein, parce que quand elles s'en sont sorties, ben, elles tournent la page, elles ont totalement raison. Hein. Il y a d'autres, au contraire, qui sont très fidèles à l'association, qui après nous donnent un coup de main. Mais ça prend des années à sortir du traumatisme des violences. Hein. Il y a un trauma extrêmement fort. Alors, l'association ne fait pas que ça, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Nous avons des tas d'autres activités. Là, nous avons été retenus par Arthus Bertrand pour à Longchamp, au mois de mai, pour présenter la SOS. Pour nous, c'est formidable, parce qu'il va y avoir plein de gens pour parler de l'association. Hein, nous avons eu également des prix. Alors ça, c'est important qu'on ait des prix. Nous avons eu le prix de la Fondation Orange, qui a donné une bourse pour une femme qui avait subi des violences pour qu'elle fasse une formation. Ça, c'est formidable, parce qu'elle était prof de maths, mais après ce qui lui est arrivé, elle a tout perdu, elle est même devenue SDF. Bon, maintenant, elle va reprendre une formation, c'est génial. Nous avons également le prix ORCIP, le prix des droits humains, pour notre combat qui ne s'arrêtera jamais tant qu'il y aura des violences et tant qu'on n'aura pas compris que les violences sont interdites. Que ce soit envers les enfants, envers les animaux, que ce soit envers les femmes, envers les hommes, les violences sont interdites. Ça ne doit pas faire partie de notre citoyenneté. Et surtout que très souvent, on frappe les plus faibles. Pour compléter ça, j'ai été nommée par le Premier ministre au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Je suis vraiment très très heureuse et j'y travaille depuis 2 ans dans le 5e plan sur les violences envers les femmes. Les femmes en situation de handicap sont partie prenante du 5e plan. Tandis que le 4e plan qui avait été commencé avant que je sois nommée au Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, on n'y figure pas. Et la première personne qui a parlé des violences envers les femmes handicapées, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Nous, quand elle a été aux droits des femmes, ça nous a permis de faire un bond en avant extraordinaire. Et dans la loi de 2014, du 4 août 2014, on parle des violences que vivent les femmes handicapées. Et ça, pour nous, ça permet qu'on ne soit pas les grandes oubliées. Parce que si une femme handicapée veut quitter son conjoint, il n'y a quasiment aucun lieu accessible pour la recevoir. Soit on appelle le 115 et on la met dans un hôtel pourri, bon, comme c'est arrivé là récemment, avec des cafards et des puces, elle ne peut pas y rester. Il n'y a rien. Donc, comme me disent les femmes handicapées, mais je préfère rester avec mon conjoint, moi j'ai un toit. Je ne vais pas devenir SDF. Je préfère être battue de temps en temps, étranglée de temps en temps, Bon, puis alors, si vous voulez, il y a aussi des séquestrations. Hein. Il y a par exemple des personnes en fauteuil roulant. Le conjoint violent crève les pneus du fauteuil roulant, remet le fauteuil roulant à la cave, lui prend son portable, et puis c'est sa chose, c'est son objet sexuel. Surtout les personnes qui n'ont ni bras ni jambes. Et ça crée une excitation perverse chez l'agresseur absolument terrible. Et je crois que la majorité des personnes ne s'imaginent pas, parce que c'est inimaginable, c'est toujours ce que je dis, ce que peuvent supporter les femmes handicapées lorsqu'elles vivent, lorsqu'elles rencontrent un homme violent. C'est terrible. Et surtout que l'homme violent va faire bonne figure lorsqu'il sera à l'extérieur.
Il passera même pour un bon samaritain, du coup.
Alors moi, j'ai aussi la chance de faire des formations aux policiers, parce qu'il y a des formations maintenant qui sont faites aux policiers pour leur apprendre, oui le mot est bon, leur apprendre à accueillir les femmes qui subissent des violences. Et on m'a demandé, moi, une demi-journée pour leur parler des femmes handicapées. Donc ça, c'est formidable. Ça prouve que les choses commencent à s'ouvrir.
Vous avez le sentiment d'être plus entendu aujourd'hui, que le regard change, ou il y a encore beaucoup à faire?
Plus entendu, oui, par le HCE, par la MIPROF, par Laurence Rossignol du droit des femmes. Oui, plus entendu, certainement. Mais qu'il y ait plus d'action, je dirais qu'il y en a extrêmement peu, des actions, extrêmement peu. Maintenant, les gens, Laurence Rossignol parle souvent des femmes handicapées, mais ça ne suffit pas de parler. C'est pour ça qu'on s'appelle femme pour le dire. Disons, dénonçons, mais agissons. Si on n'agit pas, ça ne sert à rien. Bon, je fais aussi maintenant des cours à la fac, à Paris 7. C'est moi qui ai demandé, je me suis battue pour que les étudiants qui font un DU sur les violences aient une formation sur les violences envers les femmes handicapées. Ça n'avait traversé l'esprit de personne. Puisque dans la majorité des cas, les violences envers les femmes handicapées n'existent pas. Puisqu'on nous traite d'hystériques, de menteuses, de mythomanes. Tout, pas savoir tous les noms que l'on m'a attribués quand j'ai commencé à parler des violences que vivent les femmes handicapées. Et puis progressivement, on s'est aperçu de la réalité. Puis alors si, là où il y a une avancée, c'est que maintenant on forme les étudiants en médecine, on essaie également de former le personnel médical, on essaie de former les sages-femmes. Alors moi, je voudrais être partout pour leur parler des femmes handicapées, mais on ne me demande pas. On parle des violences en général. Donc nous avons lancé une affiche sur laquelle il y a notre numéro d'écoute que nous voudrions bien pouvoir afficher partout. Donc là, on a besoin des auditeurs, des auditrices dans n'importe quel coin de France où ils se trouvent. Vous pouvez venir, vous pouvez nous écrire, aller sur notre site, on vous envoie des affiches pour mettre dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les cabinets d'avocats, dans les commissariats de police. On a fait tirer 15 000 affiches. On voudrait vraiment en mettre partout pour que les gens voient notre numéro d'écoute, que les femmes handicapées puissent nous appeler. Notre grande difficulté, c'est l'information. Comment informer que ce numéro existe? Alors, vous allez voir notre site qui est facile à retenir, c'est F comme femme, D comme dire, F comme femme, A comme agir.fr, fdfa.fr, et là vous aurez toutes les informations que vous désirez. Vous pouvez voir le film également, et puis je peux vous donner le numéro de l'association, le 01 45 66 63 97, 01 45 66 63 97. Le numéro d'écoute est différent, mais je l'ai dit tout à l'heure.
On va le redire, donc c'est le 01 40 47 06 06, 01 40 47 06 06. Mais comme vous l'avez indiqué, donc on peut aller sur votre site où il y a énormément de ressources. Vous parliez du petit film, et puis également on sent qu'il y a un gros travail de fond, hein, avec des ressources documentaires, la présentation des ateliers, puis la présentation du colloque dont vous parliez. Moi, je voulais aussi revenir avec vous sur le fait que vous êtes membre de la Fédération française pour l'UNESCO. Alors, pourquoi cet engagement, en plus du reste?
Au départ, c'était une belle rencontre avec Élise, qui m'a conviée à venir parler du handicap à l'UNESCO, je crois, il y a 2 ans. Je ne savais pas qu'il existait la Fédération. Donc, j'ai découvert cette Fédération et j'ai été enthousiaste. Et toutes ces belles rencontres m'ont fait m'intéresser à la Fédération l'UNESCO, où même nous avons eu un groupe de travail à un moment donné sur le handicap. J'ai trouvé que les objectifs de votre fédération rencontraient les nôtres. J'ai trouvé qu'il y avait des personnes qui avaient une belle écoute, des personnes qui étaient solidaires, des personnes comme je les aime, je dirais, voilà, qui sont tournées vers l'autre, qui sont prêtes à écoutez les différences. Et puis alors, vos objectifs me plaisent beaucoup. Vous travaillez avec les jeunes, vous organisez des rencontres, vous allez dans les lycées, vous faites des expositions, enfin, etc. Et je me suis dit, voilà, il faut qu'on ait des liens avec cette fédération de l'UNESCO et qu'on continue à cheminer ensemble pour changer le regard sur nos différences.
Pour conclure, donc, un petit mot, bah, on est à l'approche, hein, des élections présidentielles. Quel message vous pourriez faire passer, aux candidats? Est-ce que déjà ils se saisissent de ces questions de femmes et handicap, ou du moins du handicap, hein, ou pas du tout?
Aucun n'a crédit à mes yeux, je dirais ça comme ça, en ce qui concerne le handicap et le féminisme. Parce que je trouve qu'on nous leurre, qu'on nous mène en bateau, qu'ils nous font des discours pour qu'on vote pour eux, bien sûr, c'est leur... Voilà. Mais moi, je trouve que vraiment, ça n'a jamais été aussi nul que cette fois-ci, je trouve, tout ce qui touche le handicap et ce qui touche les femmes. Moi, je ne les crois plus maintenant, hein. Tant qu'il n'y a pas d'acte, je ne crois pas.
Je crois que c'est un constat partagé par beaucoup. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est aux personnes de la société civile de s'emparer de ces questions-là, de les porter, de dénoncer et d'agir, donc.
Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on agisse, qu'on se mobilise. On essaie de se mobiliser, mais si vous voulez, on se heurte à un non-recevoir. Quand je pense que l'accessibilité devait être mise en place pour tous les bâtiments, c'est repoussé maintenant en 2019-2020, et la loi, elle date de 2005, vous vous rendez compte? Ça fait plus de 10 ans que la loi de 2005 est passée et qu'il y a eu peu de choses de faites. Il y en a eu, mais peu de choses de faites. Et que nous, les personnes handicapées, on est toujours... Moi, je trouve qu'on nous considère vraiment comme des moins que rien, qu'on ne nous considère pas comme des citoyens et citoyennes, mais par contre, on nous fait des discours compassionnels dont je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Ce que je veux, c'est qu'on rende l'environnement accessible pour que je puisse m'y déplacer aisément et ne pas me sentir handicapée. Je vote. Il n'y a pas de bulletin de vote en braille pour les gens qui savent le braille. Il n'y a pas de machine à voter là pour les présidentielles. Eh bien, je suis dépendante de l'autre. Moi, j'ai un mari à qui j'ai toute confiance. Donc, il me mettra le bon bulletin dans la poche si je vais voter. Je n'ai pas encore décidé. Autrement, on ne nous considère pas comme des citoyens. Par contre, on nous fait payer des impôts, alors il n'y a pas de souci, hein. Et puis, vous trouvez que l'allocation personne handicapée, c'est une honte. C'est 850 euros par mois. Bon, et parfois, c'est 650 euros par mois. On ne nous considère pas comme des personnes à part entière. Ça, je trouve que notre pays, si on regarde les autres pays, notre pays a beaucoup à faire encore aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On rappelle le site.
Alors, le site, c'est fdfa.fr.
Et on insiste sur le agir. Et puis, le numéro d'écoute, donc on va redonner. C'est la première fois qu'il y a un numéro d'écoute pour les femmes handicapées qui subissent des violences. Et donc, on le rappelle, c'est le...
01 40 47 06 06, permanence tous les lundis de 10h à 13h, de 14h30 à 17h30, le jeudi matin de 10h à 13h, et nous espérons très bientôt une demi-après-midi supplémentaire, si nous avons des bénévoles qui veulent venir faire l'écoute.
Voilà, parce qu'on rappelle que du coup, vous êtes une association qui fonctionne sur le bénévolat, et c'est aussi un petit clin d'œil, un appel aux auditeurs, si vous voulez soutenir les actions de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, si vous voulez donner de votre temps, ou même financièrement, ça, tout est bon à prendre.
Tout est bon à prendre. Parce que nous travaillons tous ensemble, et plus on sera ensemble, plus on sera solidaire, plus l'association grandira, et ça sera super et formidable. Voilà.
Bien, je vous remercie beaucoup, Madame Pio, pour cette interview.
Merci beaucoup, à bientôt.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse de l'association d'éducation aux médias, au monde numérique et à la libre expression Média Commun. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur la web radio du libre, ondecourte.fr.
Radio pour l'UNESCO. pour une culture de la paix.